bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral pour ce quartier libre, pour parler du vernissage qui aura lieu très bientôt à Digne-les-Bains, au Cairn Centre d'Art, puis au Musée Gassendi, le vernissage de Pierre de Vision. Pour nous en parler, eh bien, trois personnes dans notre studio aujourd'hui. Il s'agit de Laurie Honoré. Bonjour.
Bonjour.
Il y a également donc le commissaire d'exposition Pascal Pic. Bonjour.
Bonjour.
Et puis une des artistes qui participe à cette exposition, à ce travail, il s'agit de Julie Legrand. Bonjour.
Bonjour.
Alors, qui commence à nous parler de cette exposition? C'est Laurie, peut-être?
Une petite introduction.
Oui.
Merci, Odile, pour cette invitation. Pour annoncer cet événement qui est Pierre de Vision, donc une exposition temporaire qui se passe en deux volets à Digne-les-Bains. La première partie au Cairn Centre d'Art, où donc Pascal Pic, le commissaire de l'exposition, a proposé aux artistes de créer une œuvre à partir d'une pierre. Et au musée, on va avoir un parcours d'exposition au sein de la collection permanente, avec également des œuvres d'art contemporain qui viendront dialoguer avec les collections d'art ancien, de sciences, et aussi des collections ethnographiques qui nous ont été prêtées par le Muséum Art Latin et d'autres collections privées, donc des objets constitués de pierres, de minéraux, qui viennent aborder la question des usages, des mythologies qui ont pu être inventées par les hommes depuis la nuit des temps. Et Pascal pourra nous en dire plus.
Ou peut-être par les pierres.
Hein. Aha.
Eh oui, eh oui.
Alors, Pascal Pic.
Oui. Pascal, en fait, je m'appelle Pierre Pascal.
Pierre Pascal.
Ouais, ouais. Je vais reprendre aujourd'hui mes deux prénoms, si vous voulez bien.
Ah, pour l'occasion.
Pour l'occasion, bien sûr, oui. Non pas que ce soit un projet autobiographique, mais encore que. C'est vrai que j'ai toujours fait partie des enfants. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui ramassent des cailloux, qui ont des pierres avec eux, ils les ramènent dans leur chambre, ils en font la collection. Et on ne sait pas pourquoi. Hein? Je vois souvent des parents qui se disent « Oh, mais il a encore amené des cailloux. » Et j'en parlais l'autre jour avec un psychologue, quelqu'un qui travaille avec les enfants. Et effectivement, on ne sait pas pourquoi.
Est-ce que c'est une question d'énergie?
Eh bien, Odile, oui, c'est bien possible.
C'est ça.
Oui, oui. Est-ce que, voilà, alors il pourrait effectivement s'agir de quelque chose de cet ordre-là. Alors, on ne sait pas exactement quoi. Mais pour l'instant, ce qui se pense et ce qui se dit... notamment du point de vue scientifique hein, et médical, c'est qu'effectivement, on aurait possiblement une relation particulière avec les minéraux dans le sens où les minéraux pourraient nous renvoyer une sorte d'écho hein, ou une sorte de résonance par rapport à nos propres énergies. En d'autres termes, le fait d'avoir une pierre dans la main, hein, la pierre capte nos fréquences, nos ondes, nos énergies, d'ailleurs qu'on ne connaît pas très bien. Hein. Mm-hmm. On ne connaît pas encore bien ces phénomènes. Et les transformerait et nous les renverrait. Hein. Donc il y aurait une forme de boucle, une forme de dialogue, une forme d'échange hein, qui s'établirait entre l'humain et le minéral. Donc voilà, c'est vrai que là, c'est vraiment la clé, hein, c'est la clé de ce projet, de cette exposition Pierre de Vision.
Donc un partage, un échange entre les pierres et l'homme.
Voilà, alors c'est vrai que la culture du minéral et la culture de la pierre, elle est très importante dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de l'art. Moi, j'ai une formation d'historien de l'art, donc c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse et qui m'a toujours intéressé. Et c'est vrai qu'on considère que la culture humaine est quasiment née hein, avec l'industrie lithique, c'est-à-dire les premiers objets manufacturé en pierre. D'ailleurs, on vient de repousser les limites hein, avec les datations. Mais les premiers objets en pierre dateraient, qui viennent d'être retrouvés il y a 2-3 ans, je crois, en Afrique, de 3 millions 5 ou 3 millions 7 hein, avant notre ère. Donc, c'est des marqueurs très importants. Alors, il s'agirait de bifaces. Hein, c'est des pierres taillées très, très sommairement. Donc là, bon, difficile de parler d'art ou de culture. Hein. On est peut-être à une époque, comment dire, vraiment de transition où comment dire, l'espèce qui vit avec ses éléments, c'est peut-être l'invention de l'outil. Hein. Donc on a plutôt tendance à considérer, c'est vrai, dans la culture, notre culture occidentale un peu scientifique, que les choses viennent les unes après les autres avec des temps très longs. Hein. Mais c'est peut-être pas le cas. Et c'est vrai que les recherches en préhistoire, hein, quasiment tous les ans, les limites sont reculées. Hein. Il y avait la grotte de Lascaux, et depuis une dizaine d'années, il y a la fameuse grotte Chauvet qui a repoussé les limites. Là, on n'est plus à 3,5 millions d'années, mais on est à 45 000 ans. Et ça, c'est encore en train de reculer. Et là encore, le rapport au minéral, qui plus est dans une grotte ou à la pierre, est un élément extrêmement important pour les préhistoriens, les historiens de l'art, pour travailler justement sur, enfin, mieux comprendre. Un, l'invention de l'art, l'invention de la culture, et puis aussi, qu'est-ce que l'art ? Donc c'est vrai que notre projet à Digne s'inscrit clairement, hein, dans cette perspective et un peu sur ses fondamentaux.
Donc pour cette exposition et ce vernissage, donc vendredi 31 mars, vous allez emporter le public pour une visite guidée.
Oui.
À 17h, ouais. Au Caire.
Vous n'étiez pas au courant, peut-être.
si, non, mais je réfléchissais à ce que j'allais vous répondre. Ouais.
Qu'est-ce qu'on va avoir dans cette visite guidée ?
En fait, je suis en train de m'entraîner à faire cette visite guidée.
Ouais.
C'est un avant-goût.
Je peux vous la faire à la radio, comme
Et bien voilà, j'aimerais beaucoup.
donc on va considérer que c'était l'introduction. Oui, alors, si ce n'est que... dans ce contexte du Cairn, centre d'art contemporain. Hein, là, on est avec des artistes contemporains. On travaille avec des artistes contemporains.
Alors, de nombreux
Donc,
artistes...
on est loin de la préhistoire.
Hein. Oui.
D'accord. Encore que...
On retrouvera dans le musée Gassendi des pierres de foudre qui ont été taillées à la préhistoire et ensuite réutilisées à partir du 18e, 19e, dans des croyances, puisqu'elles étaient utilisées comme des talismans porte-bonheur... avec cette idée...
Même avant, bien sûr. Ouais,
même avant, peut-être, qu'elles avaient été retrouvées et leur forme faisait penser, et leur couleur aussi, qu'elles avaient pris la foudre. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça.
Non seulement qu'elles avaient pris la foudre, mais surtout que c'était des pierres qui tombaient du ciel. C'est-à-dire, hein, le fameux ciel nous tombe sur la tête des Gaulois, c'est pas rien. Ça veut dire quelque chose. Et les pierres de foudre, bon, ça c'est une petite interprétation personnelle, mais à mon avis, sont à lire aussi dans ce contexte-là. Et effectivement, dans cette question du rapport un peu terre-ciel, céleste-terrestre, hein, souterrain-aérien, qu'on va revisiter avec les deux expositions.
Et avec l'idée que la foudre ne tombe pas deux fois au même endroit. C'est pour ça qu'elles étaient utilisées comme talisman, mises dans les murs des maisons pour protéger.
Pour protéger, même dans les fours. J'ai appris récemment que ces pierres de foudre, on les mettait aussi dans les fours quand on construisait un four, hein, soit un four de potier ou autre. On a retrouvé beaucoup de ces pierres de foudre dans les fours. Alors, est-ce qu'elles avaient une vertu protectrice ou autre ? Ça, on n'a pas l'explication, mais on a trouvé ce cas-là aussi.
Voilà, donc il y a cette approche plus ethnographique au musée, mais effectivement, pour commencer, au Cairn Centre d'Art, avec les artistes contemporains, dont nous avons ici Julie.
Donc Julie Legrand, parmi de nombreux artistes, comment vous êtes venue à travailler sur ces pierres donc,
En fait, la pierre que j'ai ramenée, qui est un très très gros silex, qui prend à peu près l'espace entre mes bras, donc c'est vraiment un gros bloc de silex. En fait, j'y suis venue par le truchement du verre. Alors, comme tous les enfants, j'ai ramassé pas mal de pierres quand j'étais...
Toi aussi.
Toute petite. Voilà, et j'ai continué à l'âge adulte. Et elles se sont... C'est des pierres qui se sont intégrées dans ma production artistique, qui se sont infiltrées dedans. Et un jour, en fait... Je travaillais déjà depuis longtemps le verre que je souffle, que je travaille au chalumeau. Et j'avais commencé à infiltrer la pierre avec du verre ou à faire sortir du verre en fusion de la pierre. Et j'ai commencé à faire des installations comme ça qui mêlaient ces deux matériaux et j'avais beaucoup ramassé de blocs de silex. Et puis un jour, voilà, moi j'avais surtout fait des études littéraires, donc voilà, la physique, la chimie, tout ça, j'étais pas trop calée là-dedans. Et puis en fait, j'ai quand même bien fini par comprendre que le silice et le verre et le silex, c'était quand même bien les mêmes molécules. À quelques infimes détails près, et que résultat, ça fait des installations qui ont une très grande diversité physique à l'œil. On voit de la transparence, on peut voir du verre miroirique, on peut voir du silex, mais en réalité, ce sont quasiment les mêmes atomes assemblés différemment.
Et fusionnés, parce que ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est que la l'œuvre de Julie Legrand, qui sera la première œuvre qu'on verra au Cairn, et une œuvre assez incroyable, puisque Julie s'est permis. Alors, je ne sais pas si on peut faire tomber deux fois la foudre au même endroit, mais toi, oui. Non seulement tu fais tomber la foudre sur une pierre, mais on ne sait même pas d'ailleurs si c'est la foudre qui sort de la pierre en même temps.
Alors, normalement, la foudre monte du sol. Enfin, c'est la rencontre électrique du ciel et de la terre.
Oui,
et donc,
oui.
La foudre en elle-même ne tombe pas, mais elle jaillit du sol, physiquement. Donc, voilà, il y a une sorte de grand éclair en verre qui est jaillissant de cette pierre et qui a un côté aussi d'arborescence ou de système veineux. Voilà, puisque dans la forme du dessin de la foudre, quelque chose qui est très proche du dessin de l'arbre ou du dessin des veines, de manière très physique, ce qui relie l'humain à la nature, à la pierre.
Donc, on pourra voir votre œuvre en premier en rentrant au Cairn.
Vous pourrez vous faire foudroyer, littéralement,
oui,
par l'œuvre de Julie.
Avoir des coups de foudre.
Comme moi, d'ailleurs, j'ai été foudroyé, je dois le dire.
Alors, comment ça va se passer, cette exposition, puisqu'il y aura... ça se passe sur deux lieux.
Oui.
Comment ça se passe? Ce sont des œuvres différentes qui sont exposées, j'imagine.
Alors en fait, oui, on peut dire que c'est une exposition en diptyque, mais il y a pas, on peut la prendre dans les deux sens. Hein. Alors déjà, il faut dire qu'au niveau des dates, ce n'est pas un vrai diptyque, puisque au musée, l'expo fermera le 4 septembre. Oui. Par contre, ça, ce qu'il faut vraiment prendre en note, c'est qu'au musée au Cairn, elle va fermer plus tôt, c'est-à-dire le 18 juin.
Le 18 juin, hein, pour laisser la place.
Donc je lance un appel pour le 18 juin. Tous à vos pierres, hein, avant le 18 juin, absolument. Donc la différence entre les deux expositions, c'est vrai qu'au musée, Laurie, hein, tu l'as rappelé, c'est qu'on a un parcours dans les collections, et à travers l'écho avec les collections et ce parcours, en fait, on aborde différentes dimensions du rapport au minéral, mais à travers des œuvres d'art contemporain. Donc c'est un peu une sorte, on va dire, d'entraînement, de préparation, presque d'initiation. Puisque le point commun entre les deux expositions, c'est vraiment de dire que la pierre, il faut peut-être arrêter de la considérer comme quelque chose d'inerte et de mort. Hein. C'est vrai que dans notre culture scientifique, depuis la fin du XVIIIe, depuis le XVIIIe et ce qu'on appelle le siècle des Lumières, dans notre culture humaniste, hein, le minéral a été classé dans les espèces, le règne minéral est dans l'inerte et l'amorphe. Hein. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui est en train de changer, hein, parce qu'on est en train, en quelque sorte, pour résumer, de réintégrer le minéral dans le règne du vivant. Hein, c'est vrai que là, on vit une période où d'ailleurs on a bien du mal, d'ailleurs, toujours à définir ce qu'est le vivant. Le vivant résiste. Hein. Mais justement, on commence un peu mieux à comprendre le vivant à des échelles plus importantes, c'est-à-dire en élargissant nos points de vue. Et en considérant le vivant non plus comme quelque chose lié à la cellule, à l'humain, mais on fait rentrer dans les catégories du vivant bien d'autres choses. Et justement, la question, c'est de voir comment on interagit ces différents éléments. Donc, c'est vrai qu'il y a des découvertes scientifiques récentes qu'on évoquait dans un entretien avec Julie il y a quelque temps, hein, où on a déterminé que le vivant sur Terre a été notamment sans doute produit par des éclairs.
Et du minéral.
Et du minéral, hein, que les premières briques du vivant auraient été produites. Hein, Julie, comment ça se passe?
En fait, il a fallu, dans les premiers âges de la Terre, qu'il y ait à la fois de la lave, de la pierre en fusion, une très très grosse pression et un courant électrique. Or, les premiers âges de la Terre étaient parcourus par des orages absolument immenses. On ne peut avoir strictement aucune... on ne peut pas se les représenter tellement c'était puissant. Et c'est le passage du courant électrique dans la matière-pierre en fusion qui a créé les premières briques organiques sur Terre. Donc, nous descendons de la pierre.
Absolument.
Si on extrapole, tout le vivant actuel est né, en fait, du minéral traversé par l'électricité. Et le tout sous très, très, très grande pression.
Absolument, voilà.
Donc ça révolutionne complètement la manière de considérer le vivant, la Terre, la planète et l'univers. Enfin,
voilà, et c'est très important de travailler là-dessus aujourd'hui. Donc là, je veux dire, c'est presque une dimension... presque politique à engager de ce projet, et écologique. Pourquoi ? Parce que reconsidérer que la pierre fait partie du vivant, c'est modifier notre rapport à aussi l'environnement. Aujourd'hui, on sait qu'on a tous un problème de... justement, on a un problème pour se recaler dans notre environnement, c'est-à-dire l'entretenir. Pourquoi ? Parce que c'est un problème essentiellement de culture, parce que notre culture, en fait, c'est séparer de la nature hein, pour vivre ce qu'on vit aujourd'hui, avoir le progrès. Il a fallu qu'on se sépare de la nature. Bon, on voit aujourd'hui le résultat. Donc c'est vrai que tout le monde réfléchit à comment faire. Donc il y a c'est une question culturelle aussi. Donc ce projet qui consiste en fait à renouer une somme de lien à la pierre et à l'environnement participe, on peut dire, d'un projet pour comment dire, réinventer une culture du vivant, de l'organique, à travers le minéral. Mais on peut le faire aussi à travers le végétal. Mais ça, c'est une autre histoire.
Donc on va découvrir des tas de pierres qui ont été travaillées... Qu'est-ce qu'on va découvrir comme pierre ?
Alors, on va découvrir différents types d'œuvres. Donc, au musée, on a plutôt des œuvres qui ont été... Enfin, il y en a quelques-unes qui ont été réalisées pour l'occasion. Mais alors, il y a des œuvres... la première œuvre, je vais donner un exemple, c'est une sculpture prototype de Olivier Roux, qui n'est pas exactement sculpteur, mais qui est plutôt inventeur et designer, qui a créé une structure en... ça s'appelle un polarisateur. C'est une structure en cuivre dans laquelle on peut rentrer, qui est associée à des minéraux. Et qui va capter en fait, qui va concentrer et capter les énergies du magnétisme terrestre. Vous voyez, on vit tous dans des bains d'ondes et de magnétisme terrestre, mais on s'en rend pas forcément compte. Certaines personnes le sentent plus que d'autres. Hein. Certaines personnes le voient aussi. Moi, je vois rien ni je sens rien. Donc, c'est pour ça que peut-être je fais ces projets-là. Mais ça commence à venir. Donc l'œuvre de Olivier Roux, c'est-à-dire que je suis à peu près comme la majeure partie, 80% des personnes, si c'est pas plus. Donc l'œuvre d'Olivier Roux va introduire dans l'exposition cette dimension-là, hein, c'est-à-dire évidemment l'énergétique des pierres, elle est évidemment liée au magnétisme terrestre. Donc pendant toute l'exposition, on va proposer en fait aux visiteurs de rentrer dans cette relation minérale, dans cette relation énergétique. Donc ça va être ténu. Hein, ça va, on ne vous dit pas que tout le monde va pouvoir repartir avec des sensations incroyables. Non. Certains l'auront, d'autres pas, d'autres à moitié. Mais au moins, c'est de rentrer dans cette proposition. C'est pour ça que c'est une exposition complètement expérimentale, en fait. Hein. Et on n'a pas l'habitude d'aborder les choses comme ça. Hein, dans les musées, j'ai encore visité il n'y a pas longtemps le magnifique Galerie des minéraux au Musée de l'Homme à Paris. Hein, au Muséum d'Histoire Naturelle, qui a réouvert il y a un an, qui est une collection mais absolument faramineuse. Effectivement, même s'il y a des pierres à l'extérieur, hein, les pierres, on est dans un rapport complètement différé. Distance. Au musée Gassendi, qui est dans la typologie de ces muséums aussi. Hein,
oui,
les choses sont classifiées. Voilà, c'est des muséums d'Histoire Naturelle qui correspondaient à des périodes où, justement, on abordait le vivant, on l'a classé. Donc, c'était une manière de le distancer, de le refroidir. Donc là, on va essayer de réchauffer tout ça avec les minéraux.
Il y aura en tout cas la possibilité aussi, dans le salon minéral, à la fin de l'exposition, d'entrer en contact par le toucher et l'observation directe des matériaux. Et peut-être après, de pouvoir témoigner pour le public de cette expérience vécue et des sensations, des impressions aussi et des souvenirs éventuellement dans ce petit salon minéral.
Ah, alors ça, c'est très important, Laurie, d'autant que tu vas aussi mettre ça en œuvre. C'est-à-dire que on pourra toucher les pierres à cet endroit-là. Hein.
Dans le salon minéral du centre d'art Le Cairn.
Alors, ce sera à la fin de la visite du musée.
Plutôt. Du musée, d'accord.
Voilà, ça, on est toujours au musée. Hein. À la fin du parcours, on propose un endroit où il y aura 4 ou 5 pierres. De la labradorite, de la tourmaline, de la serpentine et puis une magnifique fluorite que le public pourra toucher. Et donc on va lui indiquer à ce cher public qu'il peut pour une fois toucher les choses, non seulement toucher mais un peu se concentrer avec.
Oui, c'est assez rare ça dans les musées. Hein,
ben oui, c'est plutôt rare, ben, on peut le comprendre. Moi je suis aussi conservateur de musée, c'est vrai que le premier rôle du musée c'est de conserver, hein, donc on fait attention, c'est sûr.
Là, on fait un dispositif
spécial et relayé en plus par toute l'activité, la médiation comme on dit, hein, c'est-à-dire à la fois on pourra faire des ateliers, le public pourra s'inscrire, les enfants, les familles, les écoles, s'inscrire à des ateliers qui seront développés aussi de manière un peu plus précise. Hein, on pourra développer.
C'est-à-dire, ces ateliers, ce sera quand ?
Alors, il y a un programme d'activités qu'on peut retrouver sur le site du musée Gassendi et sur le site du Cairn, que je redonnerai tout à l'heure, où il y a un programme tout au long de l'exposition et qui commencera dès le dimanche 2 avril. Avec l'artiste Irina Rotaru qui va venir proposer un atelier en famille, mais pour ouvert à tous, donc dans le musée à 15h. Et c'est le premier dimanche du mois, donc c'est gratuit, comme chaque mois. Et cette fois-ci, cet atelier, en plus, donc mené avec l'artiste, proposera une approche de l'exposition par la pratique du dessin.
Donc ça s'adresse à des enfants, cet atelier, à qui ?
Alors, c'est ouvert à tous. C'est ce qu'on appelle les rendez-vous s'amuser en famille.
D'accord.
Et ce sont donc des activités qui seront proposées tout au long de l'exposition avec des rendez-vous que vous pouvez retrouver sur le programme.
Et donc pour les adultes aussi.
Également pour les adultes. Et il y aura d'ailleurs, plus spécifiquement pour les adultes, une visite guidée à 16h ce même dimanche 2 avril.
Mais parce que Irina... Donc ça fait une bonne transition pour peut-être parler du Cairn, où là, on a fait cette expérience avec les artistes aussi, hein. Notamment au Cairn, où sur les murs, donc dans l'espace, il y a 3 sculptures. On a parlé de l'éclair de Julie. Il y aura aussi un arbre associé avec des pierres d'Aurélie Dubois. Et puis un cristal géant dans lequel on pourra rentrer. Avec toute une fantasmagorie visuelle de Charles Ekeyes. Et c'est vrai que l'expo du Cairn a été conçue un peu comme une fantasmagorie, c'est-à-dire où là, comme si on laissait partir, déborder l'imaginaire, sauf que sur les murs, effectivement, là, j'ai demandé aux artistes s'ils voulaient jouer le jeu et faire l'expérience, c'est-à-dire de prendre une pierre avec eux, de, en quelque sorte, l'adopter, d'établir le contact avec cette pierre, de dialoguer avec cette pierre et de voir ce que cette pierre allait leur raconter ou comment elle allait intervenir dans leur processus artistique. En fait, faire ce qu'on appelle dans les cultures et dans l'anthropologie une forme de quête de vision. Hein, ce qu'on fait dans les cultures natives, on fait ça encore un peu dans nos cultures, mais beaucoup moins. Hein. Une quête de vision, ça consiste à quoi ? À établir une relation particulière avec un élément du vivant. Ça peut être le végétal, le minéral, ça peut être d'autres choses aussi. Et donc de faire une sorte de concentration et d'interroger. Alors c'est vrai que ça met en jeu des dimensions autres que celles, que les dimensions, on va dire, basiques de notre culture actuelle, dans le sens où là, on fait intervenir plus les cultures de l'invisible. Hein, le monde des esprits, alors c'est aussi des conventions.
C'est pas trop notre culture.
Ce n'est plus trop, enfin ça dépend pour qui.
Ouais. Mais en France, pas trop quand même.
En France, plus trop, non, c'est sûr. C'est pour ça que je fais le musée de l'invisible. Alors je vais dire un petit mot sur le musée de l'invisible, parce que ce projet Pierre de Vision, hein, il participe du projet, c'est vraiment un élément important et une étape importante du musée de l'invisible. Donc c'est une structure que j'ai mise en place il y a 3 ans, après avoir dirigé le département art contemporain du musée des abattoirs à Toulouse et le FRAC Midi-Pyrénées, hein, pendant une quinzaine d'années. Donc là, je développe un projet complètement de manière autonome qui s'intitule le musée de l'invisible, qui consiste justement à reconsidérer la question de l'art sous cet angle-là, c'est-à-dire de réouvrir de réintroduire un certain rapport au monde environnant et notamment aux éléments naturels, et puis de revisiter ces cultures de l'invisible et notre rapport à nous en tant qu'occidentaux à ces cultures de l'invisible. Donc ça, si vous voulez, ça fait partie d'un mouvement actuel qui se développe un peu dans la pensée occidentale, ce qu'on appelle dans les pays anglo-saxons les cultural studies, hein, c'est-à-dire l'étude de la culture quand on fait donc ces choses qui se développent. Moi-même, j'ai repris un cursus universitaire pour faire un doctorat lié à ces expositions. Donc vous voyez, c'est un projet effectivement un peu plus vaste qui s'intéresse et qui réouvre ces questions effectivement qu'on n'a pas forcément l'habitude de reconsidérer.
Et ça fait le lien aussi, l'exposition, avec donc les cultures orientales, puisqu'il va y avoir une collection privée, des objets d'une collection privée, qui sont des objets rituels hindouistes, présentés dans la chapelle Valls du musée. Et bien sûr, on va retrouver aussi ces philosophies orientales avec l'œuvre d'Hermann de Vries. Celle à l'honneur lors de cette exposition, c'est les fenêtres de pierre. Donc on retrouve dans la nature, dans le vallon de Descours, du côté de Barle. Et Hermann de Vries a dessiné, ou plutôt poli dans la roche, des cercles pour révéler l'intérieur de ces roches. Et donc voilà, c'est une fenêtre aussi ouverte sur le minéral. Et il renoue avec la culture des pierres de lettré chinois, de ces pierres de rêve, qui a inspiré beaucoup donc les artistes, écrivains orientaux.
Oui, on aura d'ailleurs une très belle pierre de lettré chinoise. Oui, parce que qu'est-ce que vous avez, les fameuses pierres de lettré chinoises, hein, c'est ces pierres qui ont été un peu retouchées, mais qui ressemblent à des blocs plutôt naturels, quoi, mais avec des formes un peu particulières. Alors des fois, ça ressemble à des paysages ou à d'autres choses, ou à rien du tout. Mais toujours est-il que les lettrés chinois, alors les lettrés chinois, c'était qui ? C'était effectivement plutôt les catégories riches, hein, les intellectuels. Et, bon, donc, ils avaient une relation très particulière à ces pierres. Ils se concentraient dessus. Hein, et notamment les écrivains. Donc ils écrivaient souvent avec une pierre ou alors ils se concentraient, ils écrivaient après se concentrer, ou alors carrément avec une pierre dans la main. D'ailleurs, vous pouvez le faire vous-même à la radio, hein, l'expérience peut se tenter. Et c'est vrai qu'on peut ressentir des choses assez particulières avec ces pierres. Donc, de quoi s'agit-il ? C'est pas seulement de se concentrer sur la pierre. Et c'est vrai que ça fait aussi intervenir des cultures de l'invisible. Là, on rentre, hein, c'est de rentrer presque dans la texture du minéral, et d'interroger, en fait, l'invisible. Donc, on est effectivement sur... c'est une forme de quête de vision, ça, tout à fait. Ouais.
Alors, d'ailleurs, tu as confié à une écrivain qui vit ici à Digne, Nathalie Quintane, la réalisation aussi d'un texte.
Absolument, oui, oui. Alors, ça, c'est encore une autre dimension de l'expérience. Et oui, parce que on a Nadine Gomez, que je salue et que je remercie de l'invitation, chère Nadine. Qui m'a donné la possibilité de faire ce projet. Donc Nadine m'a présenté Nathalie Quintane, que je connaissais par ailleurs, hein, donc qui est une figure importante de la vie culturelle ici et même au niveau national, qui est un écrivain remarquable, Nathalie. Et c'est vrai qu'il y a quelques temps, j'avais lu son livre « Entrée des médiums », hein, qui s'imposait pour quelqu'un qui s'intéresse au musée de l'invisible. Et on a proposé à Nathalie de faire une expérience, c'est-à-dire de lui procurer des pierres de lettré en jade chinoise et de voir si ça allait favoriser, influer, enfin que sais-je, en tant qu'écrivain, voilà, quelle aventure elle pourrait faire. Alors, sans présager de quoi que ce soit, peut-être qu'il va strictement rien se passer. Peut-être que Nathalie Quintane va nous dire, bon, ben écoutez, voilà. Mais bon, réponse, Laurie, quand ?
Ça devrait être en juillet. Voilà, il y aura donc une lecture de Nathalie. Les précisions sur les conditions seront données ultérieurement sur notre site internet, voilà, musegalsindi.org. On espère que ce sera en plein air, à la Belle Étoile,
si le temps
le permet. Dans le parc donc du musée Promenade, où se situe le centre d'art du Cairn.
Donc, en juillet, le résultat de quelle aventure,
alors ? De cette écriture de Nathalie Quintane.
De l'écriture avec la...
La rencontre de Nathalie Quintane avec deux pierres de jade chinoises. Ouais.
Voilà. D'accord.
Mais avant cela, on aura eu, il y aura des conférences. Donc, Eric Barré, qui est un spécialiste de la culture hindouiste, viendra nous parler des objets qui sont présentés dans l'exposition. Donc ça, c'est le 26 avril au musée à 18h. Il y aura aussi une rencontre avec Jean-Jacques Rullier le 9 mai à l'école d'art et des Belles. Donc là, l'artiste qui est aussi présenté dans l'exposition du musée et qui s'est intéressé à la pierre philosophale, autre dimension.
Absolument, donc on va aussi aborder évidemment.
Et de la culture de visionnaire des pierres d'Île-de-Garde. Donc il viendra nous parler de son travail à l'école d'art et des Belles le 9 mai à 18h. Il y aura aussi le 18 mai une randonnée jusqu'au trou de Saint-Martin. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un endroit dans la barre des Dourbes où il y a eu un phénomène d'érosion. On va parler d'érosion solaire. Et donc en novembre, le soleil traverse ce trou Saint-Martin. Et c'est une randonnée proposée par l'Adri 04. Départ à 8h30 le 18 mai dans le cadre de Cité Solidaire. Il y aura des lectures de textes en écho à Pierre de Vision à cette occasion, durant la randonnée. Il y aura d'ailleurs un retour au musée pour prolonger par la visite de l'exposition. Le 20 mai, le rendez-vous de la nuit des musées avec un spectacle de Régine Chopineau et puis des interventions d'élèves qui eux aussi auront travaillé à partir des pierres et nous ferons donc des surprises poétiques.
Et Régine, vous allez lui passer une pierre quand même ?
À voir. Bien sûr, ces rendez-vous sont aussi ponctués donc toujours d'ateliers, de visites et je vous annonce aussi la venue d'Abraham Poincheval qui viendra donc le 29 mai à 19h au musée pour témoigner de son expérience, lui, d'habiter un rocher pendant une semaine suite à sa performance au Palais de Tokyo.
Impressionnante.
Et oui, d'autant qu'Abraham, et oui, il s'est passé quelque chose. Oui, parce qu'on a beaucoup entendu parler de sa performance. Hein, Abraham est en train de couver des œufs, d'ailleurs, pendant 3 semaines. Donc, au Palais de Tokyo, il a fait une sculpture en forme de pierre. Donc, Abraham, qui a déjà fait une exposition à Digne, hein, qui est un fidèle de Digne, et je pense qu'il a eu un parcours très important ici.
Hein,
parce que maintenant, il commence à être quelqu'un d'assez connu, hein, et c'est même très bien et surprenant, hein, l'ampleur qu'a pris son travail avec ses performances. Mais il faut dire que pendant des années, hein, il a travaillé de manière un peu... Et il y a eu des gens qui l'ont soutenu, et Digne l'a beaucoup soutenu. Notamment à travers le musée et Nadine Gomez qui a fait beaucoup de choses avec lui. Ça, je crois qu'il faut le dire et vraiment le souligner.
Il avait été enseignant à l'école d'art. Il est belle aussi.
Ah oui. Il a été enseignant ici, bien sûr. Et donc Abraham a fait une sculpture et il a passé une semaine dans une pierre. Et avant qu'il aille dans la pierre, je l'ai appelé et je lui ai parlé de l'exposition de Digne et donc il était très intéressé. Je lui ai proposé une petite expérience à Abraham. Hein. Abraham, je lui ai envoyé deux cristaux avant qu'il rentre dans sa pierre au Palais de Tokyo. Et donc, il a passé une semaine avec deux cristaux dans les mains, dans sa pierre. Et donc, l'idée, c'est qu'il revienne ici nous faire un retour d'expérience à la fois de son vécu dans la pierre, mais qu'est-ce qui s'est passé avec les cristaux dans la pierre au Palais de Tokyo ?
Voilà, donc un programme très complet que vous pouvez retrouver dans le détail. La plupart des rendez-vous sont gratuits. Certains sont à réserver pour des questions de limite de place. Donc n'hésitez pas.
Donc le programme sur le site du musée.
www.musée-gassendi.org.
D'accord.
Et vous pouvez aussi appeler au 04 92 31 45 29.
31 45 29. On a fait le tour. Alors, vous avez porté des pierres.
C'était. Oui, 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 oui.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ces pierres-là ?
Alors là, qu'est-ce qu'on a ? Julie, tu as quoi dans la main ?
Alors, une pierre de structure.
Tu as une pyrite dorée. Une pierre carrée magnifique.
Ouais, un petit cube minéral quasi parfait.
Ouais.
Alors, il est à l'état naturel.
Oui, il n'est pas taillé.
Non.
Il existe comme ça.
Ouais, complètement.
Les atomes se positionnent de manière géométrique.
Alors là, cette pierre, elle a plusieurs vertus. Parce qu'on travaille, on a travaillé là-dessus aussi dans cette exposition, hein, sur la culture des pierres. Et ça se développe beaucoup en ce moment avec ce qu'on appelle la lithothérapie. Il y a de plus en plus de personnes qui ont des pierres avec elles. Hein.
Oui.
Je sais pas, vous en avez une vous-même?
Non.
Non, pas encore.
Si, on m'avait offert un cristal.
Un cristal, mm-hmm. Oui. Alors par exemple, vous qui faites de la radio,
oui.
La pyrite dorée peut être très intéressante parce que c'est la pierre des architectes. Donc c'est une pierre qui permet d'être très organisée, hein, d'être claire. Et on l'utilise aussi beaucoup quand on doit faire un examen ou passer un oral ou avoir un... Vous voyez, être, clair dans ses propos, précis, un peu comme j'ai parlé aujourd'hui, quoi, parce que j'avais une pyrite dans la poche.
C'est pour ça.
Vous
Mais
comprenez.
Par contre, elle vous a pas aidé à parler bien en face du micro.
Ah.
Ce qui fait que pour les auditeurs, ça va être une voix qui va se balader un petit peu.
Oui, parce que je regarde mes voisines.
Et oui.
Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a aussi du lapis-lazuli. D'ailleurs, dans le lapis-lazuli, il y a de la pyrite. Hein, les petites, c'est une pierre bleue qu'utilisaient les Égyptiens beaucoup, les Aztèques aussi. C'est une pierre magnifique, hein, le lapis-lazuli. Et avec des petites paillettes dorées à l'intérieur qui sont d'ailleurs de la pyrite. Et on aura là une double présence de la pyrite, du lapis-lazuli dans l'exposition, notamment au Cairn, puisque Myriam Michita fait 14 dessins à partir de la pyrite. Elle vit avec une pyrite depuis des années, Myriam Michita. Hein, d'ailleurs, elle fait partie des artistes qui m'ont engagé sur ces projets. Hein, parce que je connaissais pas tout, c'est un peu les, moi je connaissais pas tout ça. Si vous voulez, c'est les artistes qui m'ont montré que on pouvait faire des choses avec les pierres. Et donc elle a fait une série de dessins très étonnantes. Et on a aussi Philippe Deloison. Alors ça c'est assez intéressant d'en parler parce que la dernière œuvre de l'exposition au Cairn, elle est proposée par quelqu'un qui s'appelle donc Philippe Deloison, qui a été un grand joaillier de la place parisienne, de la place Vendôme. Il a travaillé pour Van Cleef, c'est lui qui a fait le fameux papillon de Van Cleef, le trèfle aussi, enfin bon, plein de choses. Et ce que ne disait pas Philippe Deloison, c'est qu'il était artiste médiumnique, c'est-à-dire un artiste connecté qui, depuis assez jeune d'ailleurs, hein, je crois, pratiquait une forme de contact avec l'invisible qui a alimenté son travail de joaillier et qui a alimenté aussi une pratique de peinture. Donc là, on va montrer quelques-unes de ces peintures, justement dédiées à l'esprit de la pierre, aux esprits des pierres, notamment au diamant, à l'émeraude, au lapis-lazuli. Il s'est passé quelque chose d'assez étonnant, parce que j'ai demandé à Philippe Deloison, pour cette exposition à Digne, d'interroger, en fait, le monde minéral et d'interroger les pierres pour savoir si on pouvait avoir un message, spécialement pour cette exposition. Et on a eu un message, effectivement. On a été un peu surpris par ce message des pierres. Et vous pourrez le consulter, ce message, à la fin de l'exposition, puisque, en fait, les pierres sont très contentes, hein, de participer à ce projet. Elles sont contentes de leur relation avec les humains, mais quand on les magnifie, quand on est correct avec elles. Mais il y a quand même un message qui consiste à dire que les pierres, il faut aussi les considérer un peu comme des... Hein, il faut les relâcher dans la nature. Donc, à la fin de l'exposition, on aura des vasques avec des pierres de la rivière qu'on mettra dedans. Et le public sera invité à relâcher les pierres dans la nature, comme on ouvre la cage d'un oiseau. Donc là, ce sera un peu le message des pierres à la fin de l'exposition.
Voilà, en tout cas, pour en savoir plus, on te retrouvera, Pascal, vendredi, à partir de 17h au Cairn, puis 18h30 au musée. Moi, je voudrais dire un grand merci à tous les artistes qui ont participé à cette exposition.
On peut les nommer.
En les citant. Voilà, donc, Art orienté objet, Josiane Capelle, Gaël Fauré, Olivier Rau, Jean-Jacques Rullier, Vladimir Skoda, Marcella Barcello, Charlie Case, Caroline Corbasson, Philippe Deloison, Aurélie Dubois, Julie Legrand, ici présente, Sandra Lorenzi, Myriam Michita, Irina Rotaru, qui fera donc cet atelier dimanche, et aussi les artistes de la collection du musée Gassendi qui viennent s'intégrer à l'exposition, Hubert Duprat, Paul Armangette, Andy Goldsworthy et Herman De Vries. voulais aussi remercier toute l'équipe et tous les participants qui viendront donc au vernissage, car vous pourrez rencontrer les artistes à cette occasion.
Et les pierres.
Eh bien, merci.
Merci. Et puis
à vendredi, donc, au Centre d'art Le Cairn à partir de 17h et 18h30 au Musée Gassendi.
Suivi d'un buffet.
Voilà, suivi d'un buffet. Bien, merci bonne beaucoup. Fin de journée et à bientôt. Merci. Au revoir.
À bientôt.